échappé.
Güzel kaçış.
La belle échappée.
Çudes mutlu kurtulmanı.
La belle échappée.
A bonita escapada.
La belle échappée.
La belle échappée. Christophe Canu.
On est une équipe qui vient en montagne les week-ends et en semaine. On patrouille surtout sur les chemins les plus fréquentés. On parle avec les visiteurs qui ont souvent besoin d'indications sur quel sentier prendre. Il y a des balises qui comptent le nombre de randonneurs sur chacun des six principaux sentiers. On parle de près de 800 000 personnes sur la montagne chaque année, ce qui en fait la montagne la plus fréquentée d'Europe.
Alors là, il faut bien reconnaître qu'ils ont le don de nous surprendre, ces Gallois. Car ils osent prétendre que la montagne qui attire le plus de monde en Europe, ce n'est ni le Cervin, ni le Mont Blanc, mais le Snowdon, le plus haut sommet du Pays de Galles et de l'Angleterre réunis. Enfin, un sommet, soyons sérieux, une simple colline enneigée, plutôt, si on traduit Snowdon en français, qui plafonne à 1085 mètres d'altitude. Ça laisse songeur. Et pourtant, les chiffres sont là, implacable, imparable. Et si, au final, la hauteur n'était pas si importante, c'est ce que semble nous dire le Snowdon. Car même s'il peut paraître modeste vu de chez nous, ses parois abruptes et déchiquetées en font un formidable terrain d'aventure et d'entraînement pour les alpinistes britanniques depuis des siècles. Et que dire des grands noms qui auréolent ces parois? Le roi Arthur y aurait par exemple livré l'une de ses plus épiques batailles. Pas étonnant dès lors que le Snowdon soit devenu un mythe en Grande-Bretagne et qu'il attire autant de monde. Au risque de perdre son éclat, c'est ce que l'on découvrira dans le long-métrage de Martin Delacoux. Mais avant ça, on aura droit à un court-métrage, une autre histoire. Une histoire d'une reporter, Vanessa Gotelen, qui se demande ce qui peut bien pousser un libraire à passer ses journées à lire des textes à voix haute, assis sur un tabouret, dans une voie piétonne historique de Neuchâtel. Et on entendra que du côté de la rue des Chavannes, les passants, d'abord surpris, en redemandent.
La belle échappée.
La belle échappée.
Un sommet, le Snowdon, qui malgré sa petite taille, présente trop d'attrait pour demeurer discret. Un libraire qui sème des mots à Neuchâtel dans la rue des Chavannes pour interpeller les passants qu'ils courent ou qu'ils flânent. On est comme ça à la belle échappée. Notre job, notre boulot, c'est de dénicher des contrées vivifiantes et des êtres humains qui, ici ou là, ne sont jamais au bout du rouleau. Nathalie Schauenberg à la sélection des chansons, Marc Frochot à la régie, Christophe Cagnot au micro, bonsoir.
J'ai sous les doigts montagnes et rivières, tous les combats d'aujourd'hui et d'hier, comme tiré sur un fil.
Poisson avec Sous les doigts sur RTS la première.
La Belle Échappée,
le court-métrage.
Direction la rue des Chavannes à Neuchâtel. Si elle est surtout connue aujourd'hui pour sa forte déclivité et les fresques qui ornent son sol, cette rue a toujours occupé une place à part en ville. Son nom, Chavannes, ne vient pas de nulle part. Il désigne historiquement une cabane en bois, car pendant longtemps, on n'y trouvait que des granges, des écuries et des remises. Tout changera au XIIIe siècle avec la construction des premières maisons en dur. Et petit à petit, c'est tout un quartier qui prend forme, avec ses artisans et ses commerces. Ses artistes aussi, comme en témoigne cette inscription non datée et non signée, retrouvée sur une vieille carte postale en noir et blanc. Tout, et jusqu'aux pierres de cette rue, nous parle d'une époque disparue. On n'entend plus, la nuit, la voix des guets veillant toujours. Ni, sous les balcons, le soir, les couplets des troubadours. Oui, sans doute, mais aujourd'hui d'autres ont repris le flambeau et font mentir la croyance que c'était forcément mieux avant. La rue des Chavannes, son lecteur de rue, ses passionnés et ses mistons, c'est le court-métrage de Vanessa Gotlen. Il est réalisé par Rodolphe Beauchaud.
Quelle est la rue la plus insolite ou la plus atypique selon vous dans la ville de Neuchâtel?
Peut-être la rue des Chavannes. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a un côté... ancien, typique.
Est-ce qu'on pourrait dire que cette rue est particulière?
Absolument. Vous avez déjà les dessins sur la rue. Et puis les commerçants, ils mettent des petites choses dehors, tout ça. C'est assez spécial.
C'est le point névralgique de Neuchâtel pour moi.
Ah oui?
Ah oui,
à ce
oui.
point-là?
Oui, parce qu'il y a toujours, des choses qui se passent ici, même pleine journée, de manière complètement improvisée. Il y a quelqu'un qui va monter sur un escabeau et qui va lire un livre, par exemple.
Il y en a un, là, justement, qui vend des livres. Et puis, il se met sur une chaise. Et puis, il fait de la lecture. Puis, les gens s'assoient et ils l'écoutent.
Oui, vous verrez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, vraiment. Vous savez où elle est, ou bien? Ben, je vous accompagne un petit bout.
Ah ouais?
Ouais, volontiers.
Ah, je vois le libraire.
Oui, allez-y. Je pense que ça va être intéressant. Puis c'est une personne... Moi, je ne la connais pas personnellement, mais je trouve que... Ouais, c'est une jolie initiative, finalement, de se mettre dans la rue comme ça et puis de lire, quoi. C'est magnifique, hein? Profitez bien, hein? Vous verrez, il y aura des choses sympas.
Vous en trouvez une seconde vie, individuelle et resplendissante. Pas tous, et pas éternellement. Les éléments continuent à grignoter ces joyaux. Ils flambent un instant avant que leur motif ne disparaisse.
C'est particulier d'entendre ça dans cette ville un petit peu... austère.
C'est pas une ville austère du tout.
Non?
Non, non. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les gens qui passent. Il y en a qui sont attentifs, mais alors d'autres pas du tout. Mais voilà. Peut-être ça peut ouvrir une attention à des gens qui n'ont jamais vu cela. Peut-être les intéresser à lire.
Vous voyez, là, c'est joli. Vous avez les marges, les deux côtés, des petites boutiques. Il y en a qui sont là depuis très longtemps. C'est rigolo. Et puis une fois, il y a quelques années, ils avaient suspendu des parapluies. La rue des Chavannes était vraiment dans les parapluies, quoi, de toutes les couleurs, là. C'était vraiment très joli, quoi.
Bonjour.
Mais bonjour.
Qu'est-ce que vous lisiez?
Je lisais Tesson, de Jean Prodhon. Donc je trouve que ça se prête bien pour un partage dans la rue, parce que c'est des textes assez brefs, et puis qui sont accrocheurs, qui ont une belle langue, mais qui sont tout à fait accessibles.
Vous lisez tous les jours dans la rue ?
Quand je suis bien, quand l'énergie est là, oui. Après, il y a des périodes où il fait trop froid, il pleut. J'ai pas eu de formation ni de comédien ni de chanteur, donc je suis toujours en voix de gorge, ce qui fait qu'il y a des moments où la voix est pas au rendez-vous et puis je me fais mal. Donc là, j'insiste pas.
Et vous êtes donc une animation de cette rue?
Moi, j'avais envie d'être une curiosité. Et puis, j'adore. Il y a même une dame qui m'a dit un jour, mon enfant, maintenant, il a 3 ans, et quand il prend un livre, il se met sur une chaise et puis il nous fait la lecture à la cuisine. Donc, ne serait-ce que pour ce jeune garçon, j'aurais l'impression d'avoir fait ça pour donner envie, je crois, d'autres manières. plutôt que d'être un peu pontifiant ou moralisateur, de se dire mais la lecture ça peut vraiment se faire dans tellement de circonstances, quoi.
Salut Clarisse, t'es en retard.
C'est vraiment la place du village ici.
Hyper, cours, vol.
Alors Julien habite juste en dessus, justement depuis plus de 20 ans avec Patrick.
Je trouve quand même que tu es le plus bruyant de tous les propriétaires.
Oui, alors justement, Patrick, c'est un peu la blague de temps en temps quand il en a marre, il ouvre la fenêtre et puis il nous montre des œufs ou deux, trois petites choses qu'on pourrait tout à coup recevoir sur l'occiput.
Apparemment, on t'entend très bien, le son monte et se répand dans tout l'appartement.
Moi, dès que je peux, je sors des chaises dans la rue parce que je trouve aussi que c'est un geste important de rappeler que l'espace public, c'est un lieu dans lequel on peut échanger et que je crois que c'est le geste politique numéro un, en fait, de parler avec des personnes qu'on ne connaît pas. Évidemment qu'on va peut-être parler de la météo d'abord pour venir sur d'autres sujets et puis sans volonté de se convaincre ou de s'éduquer, mais juste de se considérer. Et du coup, voilà, je trouve que cette rue des Chavannes, elle permet ça, d'être dans un anonymat qui est respecté, mais qui, si on le veut, peut amener quand même à un moment d'échange.
On vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Viens, viens, Gildas. Merci. En tout cas, moi, je vous écoute.
Il s'est enfui au chaud.
Voilà. C'est quel titre ?
Debout sur le ciel, Paul Dubouchet.
D'accord.
À la sortie de mon village de Normandie, lorsque l'on prend la route qui descend raide sur la vallée de l'Ept, il y a sur la gauche de grandes houles de champs cultivés. Un océan de terres brunes, blondes ou vert pâle selon les saisons, qui se déroule et s'étend aussi loin qu'une vision nette peut l'appréhender.
C'est une vieille rue, et puis le fait qu'il y ait aussi les escaliers sur les côtés. Parce qu'en fait, on monte la rue, puis après on arrive au nœud bourg, et puis là, c'est quand même un petit peu à part. Ouais, c'est ça, moi je pense qu'on peut très bien aller... aller un peu se planquer là. Ouais, les entrées comme ça qui sont un petit peu en retrait. Ah ouais, moi je pense que ça va être assez pratique pour, pour aller faire des coups tordus, quoi.
Répondait à celui par lequel il avait accompagné ma mère le 19 avril 1951.
Alors probablement qu'il y a eu des histoires au début. Quand j'ai connu, il y avait. Oui, c'était un peu une vie. Comme la rue des Moulins, la rue un petit peu la rue des Mistons, quoi.
La rue des pardons ?
Les Mistons, c'est pas ce que c'est ?
Non.
Ah, un petit peu les malfrats, mais les jeunes gens un petit peu indisciplinés, si vous voulez, quoi. Et puis ça s'est petit à petit gentrifié, si on peut dire.
Est-ce que c'est pas somptueux ?
Bravo, c'est magnifique.
Debout sur le ciel de Paul Dubouchet.
C'est incroyable.
Merci pour votre écoute attentive.
Bravo, c'était très bien lu. Merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Je me ferai un plaisir de la lire, parce que je ne connaissais pas du tout.
Ben alors voilà. ça me ravit.
J'ai découvert quelque chose. Merci, puis je vais rejoindre mon...
Ben oui, allez aussi.
Bon appétit, c'est bon
à l'intérieur.
C'est bon, c'est vrai, ouais. Ça s'appelle comment?
C'est une focaccia.
Ah, je ne connais pas. Ah, focaccia, ah, c'est italien.
Oui,
italien.
Oui,
ah,
oui,
italien. Ah, voilà, italien. D'accord. Eh ben alors, bon appétit.
Mais merci beaucoup.
Une focaccia, comme ça, à 3 heures, monsieur.
Écoute,
cette animation dans la rue des Chavannes, vous appréciez ?
Mais non, mais ce qu'il fait est essentiel, même si ce n'est pas vraiment encore bien reconnu, mais il a attiré des personnes tout d'un coup qui s'arrêtent, qui découvrent un bouquin, qui disent « Comment ? J'ai pas lu ça ? Non, mais c'est pas possible !»
Alors, je vais vous raconter une anecdote, je ne sais plus si je l'ai dit, Jean, ce qui m'a bouleversé il y a peut-être 3 samedis de ça. Le samedi, c'est vrai que c'est la journée du marché, le bus ne passe pas au Saillon. Et puis, je vois un monsieur qui sort et vraiment qui me regarde, mais avec une attention soutenue. Qui attend que je finisse, puis qui me demande s'il peut m'importuner. Je dis, mais vous ne m'importunez pas. Puis il dit, parce que là, ça fait quand même quelques mois que je me demande si je prends une retraite anticipée ou pas. Et grâce à vous, je viens de décider qu'évidemment, je vais prendre une retraite anticipée. Puis il m'a dit, j'ai tellement de livres chez moi que j'ai envie de lire. Pourquoi je vais encore me tuer à la tâche pendant 2 ans? Je serais tellement mieux. Donc voilà, ça c'est génial.
Et c'est juste, non, c'est la plus ancienne rue commerçante de la ville. C'est la rue qui amenait les commerçants faire le marché ici à Neuchâtel, au centre-ville.
C'est vrai que plutôt dans le centre-ville, c'est plutôt des bureaux ou des assurances qui sont en dessous des commerces. Et ici, on a vraiment des gens qui habitent. C'est... c'est Naples dans toute sa splendeur, c'est tous ces vieux quartiers. Quand on avait la décoration avec les habits qui pendaient, c'était splendide aussi. C'était beau. Ouais. Les gens, quand ils viennent dans cette rue, ils se sentent un peu dépaysés en vacances. C'est vrai, hein? Bonjour, ils travaillent un petit peu, hein?
Est-ce que tu restes avec nous pour le début de la prochaine lecture?
Oui.
Le soir, je vais marcher le long de la Loire. C'est un automne très doux. Un achèvement tranquille de l'été. Il pleut parfois et puis très vite vers l'ouest, on sent le bleu qui revient par grandes, longues traînées. De ce bleu d'après la pluie, lavé par le vent, par ce qui vient de la mer. Je longe la Loire. Elle disparaît derrière les arbres, réapparaît plus loin autour d'une île envahie d'oiseaux, des mouettes, des cormorans, un héron parfois, solitaire, qui au bruit des pas s'envole d'un long puissant trait dans le bas du ciel. Les odeurs d'octobre, l'odeur incomparable de ce qui s'achève, le liseron blanc sur le chemin, la Loire qui brille doucement, bleu, très bleu, plus loin entre les arbres l'étroit pignon et le toit rose, une vieille maison qui fait le guet sur le fleuve, et quand on avance de quelques pas, on aperçoit de l'autre côté la tour, les clochers de Beaugency. Tandis que j'écris ces lignes, un petit vent tiède pénètre dans le bureau où je travaille le dos à la fenêtre pour éviter de regarder le paysage. La trop belle lumière sur le fleuve et plus loin sur le val. Je tourne le dos au fleuve derrière ces arbres et à la lumière si paisible, si douce. Je suis.
Tout le monde s'appelle par son prénom dans cette rue ?
Ah oui, on se connaît toutes et tous. Après, voilà, les interactions sont pas les mêmes à tous les niveaux. Tiens, Jonathan, bon après-midi. Salut Catherine.
C'est encore de nouveau quelque chose qui donne une âme et une vie à cette rue. Oui. Même les gens, les clients, les touristes quand ils passent, puis tout à coup on sort, puis on s'appelle. Hey Karim, hey Giulio, hey. Tu sais, c'est un peu cette rue que quand t'es dans l'avion et que tu vas dans une ville, puis tu fais... Ah ouais, mais il faut qu'on aille là-bas. Il paraît qu'il y a un gars qui lit des livres comme ça. Ça doit être quelque chose, quoi. Il paraît qu'on y mange des bonnes focaccia, des bonnes pâtes, mais ça doit être terrible de voir ce gaillard sur un tabouret en train de lire des livres. Où c'est que tu trouves ça? Nulle part. À la rue des Chavannes, à Neuchâtel. Et voilà.
La rue des Chavannes, son lecteur de rue, ses passionnés et ses mistons, c'était le court-métrage de Vanessa Gotlen. Il était réalisé par Rodolphe Bouchou. Thank you. Lila and the Warblers avec Go Your Own Way sur RTS La Première.
La Belle Échappée.
Le long métrage.
Direction le Pays de Galles, ce bout de terre qui fait partie du Royaume-Uni, mais qui revendique le statut de nation à part entière. Et c'est effectivement difficile de ne pas le lui accorder, quand on pense pêle-mêle à son histoire, sa culture et sa langue, le gallois, ou Simarreg, comme on dit sur place, ou encore son équipe de rugby est... Et ces montagnes. Alors vous allez me dire forcément que vous ne voyez pas trop ce que peuvent revendiquer les Gallois en la matière, puisque leur plus haut sommet, le Snowdown, atteint à peine les 1000 mètres d'altitude. Et pourtant, c'est bien là que sont venus s'entraîner ou vivre les plus talentueux alpinistes du pays, attirés non seulement par les parois verticales du massif, mais aussi par les anciennes carrières d'ardoises voisines qui permettent de se faire de belles frayeurs en escalade. Pour autant, il n'y a pas besoin d'être intrépide pour gravir le sommet. Un train permet d'y accéder l'été sans avoir besoin de mettre un pied devant l'autre. Plus de 12 millions de personnes l'ont déjà emprunté depuis sa création en 1896. Et certains chemins de randonnée sont si larges et si bien entretenus qu'ils attirent des milliers de personnes et même des familles avec des enfants en bas âge. Au Pays de Galles comme ailleurs, on l'a bien compris, la montagne, ça fait rêver. Mais à force d'être gravie par tous les côtés, ne risque-t-elle pas de s'user et de perdre son âme? Le Snowdown, au lieu de l'alpinisme et des mythes britanniques, à 1085 mètres d'altitude, c'est la grande histoire de Martin Delacoux. Elle est réalisée par Rodolphe Beauchaud.
So Maros, so you're being interviewed?
Yeah, this is Martin from Switzerland.
Yeah, hi Martin.
Radio journalist.
Yeah.
On est du nord-est de Londres, les enfants sont en vacances, on s'est dit, allons tenter le Snowdon. C'est pas évident, avec des enfants de 10 et 8 ans, on est donc venu pour 4 nuits et aujourd'hui la météo n'est pas trop mal, donc on essaye. Je crois que la météo indique quand même moins 2 degrés au sommet, mais on a des bonnets, des gants et tout ce qu'il faut.
Le train marche toujours, donc le café est encore ouvert. Vous allez pouvoir vous y réfugier et prendre votre pique-nique là-bas.
On leur a promis un chocolat chaud avec des marshmallows et de la crème pour les motiver.
Je crois qu'ils n'ont ni marshmallows ni crème malheureusement.
Non, ne dites rien. Avec ma femme, nous avions fait le Snowdon avant d'avoir des enfants. C'était il y a une quinzaine d'années. C'était plus sympa à l'époque. Sans enfants, on n'avait pas besoin de remplir autant nos sacs avec des friandises. On était passé de l'autre côté à l'époque, le long du chemin de fer, depuis Lambaris.
Oui, nous on redescend par là. Pour avoir un peu de variété, on monte par ici et on descend de l'autre côté.
La dernière fois qu'on est venu, on est sorti de la voiture et il s'est mis à pleuvoir très fort. Il a plu toute la journée. Quand on est arrivé au sommet, le café venait juste de fermer, donc on a tapé à la porte et on nous a ouvert en nous disant « Désolé, on ne peut plus vous vendre de chocolat chaud, juste vous l'offrir. » C'était vraiment très sympa de leur part, mais il avait vraiment plu toute la journée.
Bye, thank you.
That's the sort of conversation we have all the time, you know, on the way up.
C'est le genre de conversation qu'on a tout le temps.
Ah, on est à un passage un tout petit peu plus tranquille. On va en profiter pour demander à Tony de se présenter.
Oui, je m'appelle Tony. J'ai grandi en Angleterre, mais j'ai déménagé au Pays de Galles il y a 25 ans et j'ai appris la langue. Je suis bénévole sur les sentiers depuis 9 ans. On est une équipe qui vient en montagne les week-ends et en semaine, on patrouille surtout sur les chemins les plus fréquentés. On parle avec les visiteurs qui ont souvent besoin d'indications sur quel sentier prendre. On est là pour donner des conseils. Allez-y, continuez. Je veux juste m'arrêter ici. On ramasse aussi les déchets. Ça représente en moyenne 500 grands sacs poubelles qu'on remplit chaque année, ce qui est terrible. On sort par tous les temps. Parfois, c'est magnifique. C'était le cas il y a quelques jours. Parfois il pleut sans interruption du début à la fin, mais j'adore ça. Il y a des balises qui comptent le nombre de randonneurs sur chacun des six principaux sentiers. Donc les autorités locales savent exactement combien de personnes sont sur la montagne. Le dernier chiffre, c'est 660 000, sans compter les 140 000 personnes qui arrivent en train. Donc on parle de près de 800 000 personnes sur la montagne chaque année, ce qui en fait la montagne la plus fréquentée d'Europe, voire du monde. Il y aurait le mont Fuji au Japon, qui est un autre prétendant à ce titre, mais comme on ne compte pas les gens là-bas, Snowdon est vraiment la montagne la plus fréquentée au monde.
Je me dis qu'on pourrait monter dans les carrières d'ardoises, juste au-dessus de Lambéris. C'est un endroit vraiment cool.
C'est d'ailleurs assez étrange de grimper sur quelque chose qui est finalement pas naturel.
Oui, c'est vrai, c'est sans doute pour ça que les gens n'y ont pas grimpé pendant un long moment. Ça a changé dans les années 80, du moins au Royaume-Uni. Des grimpeurs ont commencé à mettre des pitons dans la roche pour s'assurer. Avant ça, c'était vraiment quelque chose que nous ne faisions pas ici. Je pense que cette manière de faire vient de France et d'Allemagne. C'est ce qui a permis aux grimpeurs de monter sur des parois lisses, sans fissures, tout en se protégeant. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'escalade sportive dans les carrières s'est développée.
Est-ce que vous pouvez juste vous présenter un peu?
Je m'appelle Rick Potter. J'habite dans le nord du Pays de Galles depuis 30 ans, quelque chose comme ça. Je fais de l'escalade, mais je suis aussi guide de montagne.
Et donc vous avez bougé ici par amour de l'escalade?
Ouais, je me suis installé ici parce que je vivais alors dans une partie de la Grande-Bretagne où il n'y avait pas beaucoup d'escalade. Et toutes les histoires d'escalade dans le nord du Pays de Galles étaient vraiment excitantes pour moi. Je voulais déménager quelque part où il y avait une communauté de grimpeurs et des voies d'escalade. Et ensuite, j'ai essayé de trouver comment je pouvais gagner ma vie.
On est arrivé. Et donc... Yeah. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu où est-ce qu'on est?
Là, on entre dans une des carrières les plus proches de la route, qui est aujourd'hui bien sûr abandonnée. Il y a des falaises d'environ 50 mètres de haut. Si tu regardes à gauche, on a cette ardoise presque violette. En fait, quand il pleut, et en ce moment il pleut, tu peux bien voir cette couleur violette. Et puis, entre les falaises, on a de gros tas de déchets, c'est toutes les ardoises qui ont été jetées. Tous les matériaux de qualité ont été emportés, et ce qui reste, ce sont les vestiges de l'industrie. Écoute le son de ces craquements. C'est une voie assez célèbre ici. C'était l'une des premières voies qui a été faite précisément sur l'ardoise. Elle suivait une ligne de fissure. Tu peux la voir ici. Elle est équipée avec des pitons et des coinceurs. C'est probablement une voie qui est classée 6B, quelque chose comme ça. Mais ça a été fait il y a peut-être 35 ans, ou peut-être même 40 ans. Donc avec ces voies, il y a beaucoup de petites arêtes sur lesquelles tu dois te tenir en équilibre. Tu dois passer sans arrêt d'un petit appui à un autre petit appui. Et il n'y a pas beaucoup d'adhérence sur la roche, c'est très lisse. Pour les voies d'escalade plus difficiles, les arêtes ont vraiment la taille d'un cure-dent. Sur d'autres, c'est un peu plus facile, elles sont plus grandes. Tu peux trouver de la place pour les pieds, donc ça dépend vraiment des voies.
Et donc, ce n'est pas ici que l'escalade dans la région de Snowdon a commencé, mais c'est là où les gens ont fini par aller quand tout avait été fait finalement.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime l'escalade, pour ce côté exploration et découvrir de nouveaux sites. Et c'est vrai que dans les années 80, on a découvert beaucoup de parois. Cette zone entière était presque inconnue pour l'escalade, même si certains grimpeurs étaient déjà venus en précurseurs, comme Joe Brown. Ils avaient ouvert quelques voies dans l'une des grandes carrières. Ils étaient contents de découvrir un nouvel endroit. Ils voyaient le potentiel de ces carrières. Et effectivement, ça s'est avéré être un super endroit pour grimper. D'autant plus que l'ardoise, ça sèche très vite après une averse, ce qui est hyper pratique.
Snowdonia, c'est vraiment un endroit plein d'histoires de grimpe. Joe Brown, le célèbre alpiniste, avait un magasin ici. Et il y avait énormément de travail dans les carrières dans les années 80.
Alors justement, Jamie, un mot de là où on se trouve. On est dans le magasin d'escalade où vous êtes salarié, avec Jess en tant que manageuse. C'est un lieu assez mythique ici à Lambéris parce qu'il a été fondé par Joe Brown, qui est un des plus grands noms d'alpinistes anglais. Il est mort il y a assez peu de temps, en 2020, il y a 4 ans donc. C'est un des deux héros du livre de Al Alvarez, Nourrir la bête, avec un autre alpiniste assez discret et génial qui s'appelle Mo Antoine et qui a aussi vécu à Lambéris. Et voilà ce que écrit Al Alvarez dans son livre à propos de la boutique. Elle n'est pas grande, mais avec son carrelage en ardoise et ses raccords en pin massif, elle paraît démesurément chic pour son emplacement. Il en va de même de son contenu, des rangées de doudounes, des étagères remplies de sacs de couchage et de pulls très chers. Une sorte de caverne d'Ali Baba pour alpinistes. Le week-end, surtout quand il fait moche, l'endroit est bondé de jeunes aspirants qui caressent avidement la marchandise et échangent des ragots sur le ton laconique et rugueux caractéristiques du monde de l'escalade.
Oui, je pense que la clientèle a quand même changé un peu au fil des ans, avec l'afflux massif de personnes qui viennent seulement randonner jusqu'au sommet du Snowdon. Donc c'est une clientèle très différente de celle qu'il y avait dans le temps, où il y avait beaucoup plus de grimpeurs, ce que l'on appelait les dirtbags, des voyageurs qui vivaient avec pas grand-chose dans des camionnettes ou des caravanes.
Parlez-moi un peu de Joe Brown également, celui qui a créé ce magasin. Ce nom, il résonne toujours aujourd'hui dans la communauté des grimpeurs?
Je pense que les gens viennent toujours à cause de son nom, oui. C'est quelqu'un qui reste bien connu dans la communauté des grimpeurs. Il a ouvert tellement de voies dans la région. Mais il y en a aussi qui viennent sans le connaître. Les jeunes surtout. C'est vrai qu'il est mort maintenant, mais c'était une légende. Il a beaucoup fait dans et pour la région.
Et d'ailleurs, derrière vous, je crois qu'il y a sa photo, et juste à côté, un de ses casques, il était connu pour ça, je crois, la fabrication de casques d'escalade.
On a des photos. Et on a aussi son vieux casque, là, accroché au mur.
C'est un casque qu'on vendait il y a des années. Vous voulez une tasse de thé?
Oh, why not, thank you. No, thanks. Yeah, just milk. J'ai l'impression que vous êtes vous-même grimpeur, c'est ça?
Je grimpe, je cours.
Moi aussi. Ça m'arrive de courir d'ici jusqu'à un petit sommet tous les matins, si je me réveille tôt en été. Et je ne vois personne. Ça fait du bien. Tu es en hauteur, c'est juste la liberté et juste un peu de temps pour penser. Vraiment. Alors que Snowdon, c'est vraiment surpeuplé. Quand je vais dans le coin, je ne monte pas jusqu'au sommet pour éviter la foule.
Oui, pareil. Je pourrais y aller en hiver parce qu'il n'y a pas grand monde là-haut en cette saison. Mais attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller jusqu'au sommet, qu'il n'y a pas de belles vues depuis le haut du Snowdon. Il y a de beaux chemins là-haut si tu aimes la montagne. Il y a notamment une belle crête assez exposée. Et si tu arrives au bon moment, tôt le matin ou en fin de soirée, tu peux être tout seul. Donc c'est vraiment chouette d'avoir le choix entre des endroits calmes et ceux où il y a beaucoup de monde. En tous les cas, on monte toujours pour une bonne raison sur le Snowdon. Parce que c'est très beau.
Il y a encore des choses intéressantes ici à grimper, ou c'est plutôt pour la vieille école, des choses qui ne sont plus très modernes, on va dire?
Oui, il y en a vraiment pour tous les niveaux. Il y a de l'escalade sportive sur la côte, sur des falaises en calcaire qui attirent beaucoup de monde. Et puis tu as aussi des voies plus classiques, notamment en montagne. Non, on est vraiment gâtés. Sans oublier les gars qui font de l'escalade sur des blocs. même s'il y en a moins. Mais malgré cette diversité des pratiques, le nord du Pays de Galles reste quand même une région où l'on vient faire des voies d'escalade traditionnelles, sur des falaises. When you grow tired of the friends you made, even though you meant to say something else, say they were the best of times you ever had, best of times with a thoughtless kind. We dress conservatively at the best of time. Look at the sunlight as it shines in your eyes. On the one you love, bright lights in the eyes of the one you love. What we see, what we imagine, the eyes tell us nothing. The bright lights in the eyes, the one will tell us nothing. Like the stars of imagination, the scars of imagination. The bright lights in the eyes of the one will tell us nothing. They're the thoughtless kind. So, if you tired of the friends you make, never turn your back on them. Say they were the best of times you ever had, the best of times with a thoughtless kind. The best of times with a thoughtless kind.
John Cale, à l'instant sur RTS La Première, avec Southless Kind, un auteur-compositeur mythique qui a tellement passé de temps aux États-Unis, pays où il vit encore d'ailleurs, qu'on en a presque oublié qu'il était né au Pays de Galles. Pays de Galles où on s'est installé aujourd'hui dans la Belle Échappée. On a pris place dans la région du Snowdon, le plus haut sommet des territoires gallois et anglais réunis. Une montagne qui attire du monde, beaucoup de monde, mais qui offre aussi de belles escapades à celles et ceux qui recherchent la tranquillité. On l'a entendu dans la première partie du reportage de Martin Delacoux. Pour autant, si le Snowdon est aussi fréquenté, voire trop, à certaines périodes, ce n'est pas seulement en raison de sa facilité d'accès en train ou à pied, mais aussi, on va l'entendre dans la deuxième partie du reportage, en raison de personnalités qui ont fait sa légende. Des alpinistes, comme Joe Brown et Mo Antoine, mais aussi des rois. On rejoint Martin Delacoux en pleine ascension.
Legend has it that King Arthur lived in these parts. We're talking about, you know, the 5th, 6th century. He had an enemy.
La légende raconte que le roi Arthur vivait par ici au 5e ou 6e siècle. Il avait un ennemi, Mordred, qui se trouvait aussi dans cette région, juste de l'autre côté de cette crête. Alors le roi Arthur a rassemblé ses armées pour attaquer Mordred. Elles ont certes gagné, mais Arthur a été mortellement blessé. Il y a un endroit un peu plus à droite, malheureusement caché par les nuages aujourd'hui, qui signifie en gallois le passage des flèches. C'est là que le roi Arthur a été touché par une pluie de flèches et il en est mort. Avant de mourir, il a demandé à l'un de ses chevaliers, Sir Bedivere, de prendre son épée Excalibur et de la jeter dans un lac un peu plus haut.
C'était une bonne épée, donc Bedivere ne voulait pas la jeter. Quand il est revenu auprès du roi, Arthur lui a demandé s'il l'avait bien jetée dans le lac. Bedivere a menti en répondant que oui, mais le roi Arthur ne l'a pas cru. Alors il lui a demandé de le faire réellement. Bedivere s'est exécuté, mais une main est apparue et elle a attrapé l'épée avant de disparaître dans le lac. C'est une des histoires qui se racontent sur le roi Arthur dans cette montagne.
Ah, je ne savais pas du tout que c'était ici qu'il y avait tout ça. C'est vrai que l'histoire de la main, elle est très connue.
Le problème, c'est que si tu vas en Cornouailles ou dans d'autres endroits, on dit aussi que le roi Arthur y est mort. Donc cette histoire d'épée, ça reste une légende. Mais c'est une histoire qui est fortement associée au Snowdon.
Et donc il y a vraiment plein d'histoires comme ça, c'est une montagne qui attire les mythes.
Je pense que c'est normal qu'une montagne qui a une telle réputation, qui est la plus haute du pays de Galles, et même plus haute que n'importe quelle montagne en Angleterre, soit l'objet de plein de légendes et d'histoires.
Dans le brouillard, dans le nuage avec Tony. Et je sais pas si ça s'entend au micro, mais je trouve que tout de suite l'ambiance change et les sons sont beaucoup plus ténus.
Écoutez-moi, si vous voulez suivre le chemin, vous ne l'aurez pas en continuant par là. Vous devrez remonter par ici. Il y a une pente très raide là-bas.
C'est le vestige des mines de cuivre et ce site attire aussi certains visiteurs. Même quand vous travaillez pas, vous êtes obligé d'avertir un petit peu les gens comme ça?
On essaie de faire de la prévention. Nous, on sait où sont les dangers sur la montagne, et pour beaucoup de monde, c'est la première fois qu'ils viennent ici. Ils ne connaissent pas la montagne. Donc même quand je ne suis pas en service, je fais toujours attention. Un peu comme un policier. Un policier en repos est en fait toujours en service. Le risque, c'est que parce que c'est une montagne qui a la réputation d'être accessible sans grande difficulté, il y a beaucoup d'adultes qui pensent « Oh, c'est facile !» Mais c'est quand même une montagne. Même si vous commencez l'ascension depuis la commune de Lambaris, qui est censée être le chemin qui ne présente aucune difficulté, vous avez quand même beaucoup de dénivelé avant d'arriver au sommet. Ce qui n'est pas évident, il faut pouvoir le faire. Même si c'est le chemin le plus facile, ça ne signifie pas que c'est facile en réalité, c'est relatif. Donc certains adultes tombent vraiment des nues et ils ont vraiment du mal à aller jusqu'en haut.
Tout de suite, l'ambiance change vraiment. Les gens ont des habits plutôt de ville avec des chaussures blanches, etc. Et là, il y a la fameuse queue pour prendre un selfie au sommet, au point le plus haut du Snowdon, et pourtant on voit vraiment mais rien du tout, on est en plein brouillard.
Tout le monde semble devoir faire cette photo comme si c'était une obligation. Certains jours, c'est 45 minutes de queue. Elle commence en bas des escaliers. D'ici, on ne voit même pas le début.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Snowdon. Nous allons maintenant monter jusqu'au sommet. Un aller-retour qui va durer 2h30, avec en plus une demi-heure au sommet environ. Quand le train est en mouvement, veuillez ne pas vous lever, car le conducteur là-bas à l'arrière va pouvoir me voir. Profitez du voyage.
Bye.
Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons pour grosso modo une demi-heure. Est-ce que tout le monde peut être de retour dans le train à 16h, d'accord? 16h. Je vous rappelle que ceci est le dernier train, alors ne le loupez pas, car sinon il faudra marcher. Profitez bien de votre promenade au sommet. Faites bien attention à l'espace et à la marche.
You are in the train?
Yeah.
What's your name?
Yeah, I'm Cambodian.
Alors, dites-moi, comment vous avez trouvé ce voyage? Pourquoi avoir choisi le train et ne pas être monté à pied?
C'est compliqué de monter avec les enfants, donc on a décidé de monter en train. Et c'est vraiment super. Ça nous fait 3 ou 4 heures de sortie environ. Donc c'est vraiment très sympa. Mais c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir rester très longtemps au sommet. C'est très nuageux, on est dans le brouillard, c'est un peu dur d'en profiter dans ces conditions. Mais c'est génial d'être ici. C'est le plus haut train du pays, donc aller jusqu'au sommet, c'est vraiment quelque chose dont on va se souvenir toute notre vie.
Like you can go on the top, right? It's a lifetime kind of thing, right?
Alors là, on cherche notre chemin parce qu'on est vraiment au Pays de Galles. Yeah, yeah, yeah. Donc je dois sauter.
Pretty wet.
Yeah. And windy.
Yeah.
Très humide et venteux.
Il y a vraiment de tout ici. Juste au-dessus de nous se trouve une falaise devenue célèbre grâce à Joe Brown. Il y a un grand dièdre juste à l'arrière qui est très connu. On l'appelle Cenotaph Corner. D'après certains connaisseurs, ce serait la voie la plus célèbre de Grande-Bretagne. Donc, tout le monde veut la faire. Et ça devient de plus en plus difficile chaque année parce que c'est de plus en plus poli par le passage des grimpeurs.
Vous l'avez fait ?
Oui, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, vous avez souvent des gens qui veulent venir la faire. Donc, j'ai amené des clients plusieurs fois, mais c'est de plus en plus dur de l'escalader.
Et donc, là, c'est un endroit où de grands noms sont passés. Oui, vous pouvez m'en parler un petit peu, Joe Brown et des gens comme ça ?
Oui, bien sûr, quand Joe Brown a commencé à grimper ici, il avait tendance à suivre les fissures. C'est l'époque où, dans les années 70, l'escalade a vraiment explosé. Et certaines de ces parois, qui semblaient très lisses et inaccessibles, ont commencé à être escaladées. Cette voie, par exemple, est vraiment célèbre, juste au milieu de cette paroi. Il y a un passage qu'on appelle « right wall ». Quand vous regardez une falaise comme ça, c'est presque toute l'histoire de l'escalade de la région que vous contemplez. Parce que chaque génération a ajouté son grain de sel, a ouvert de nouvelles voies. Donc maintenant, il y en a un peu pour tous les niveaux. Et certaines des voies les plus difficiles du Pays de Galles se trouvent là.
And who was Joe Brown?
Au départ, c'était un homme de la classe ouvrière de Manchester qui travaillait comme plombier. Et puis, il a décidé de venir vivre au Pays de Galles et de grimper. Avant lui, c'était surtout des riches qui faisaient de l'escalade. Il a fait partie de cette nouvelle génération d'après-guerre qui est venue bousculer tout ça. C'est énorme ce qu'il a fait, vraiment énorme.
Un mot aussi sur Mo Antoine, qui était un grimpeur célèbre aussi à l'époque.
Oui, il était fourré dans toutes les expéditions du coin avec les grimpeurs locaux. C'était un grimpeur connu, ici et ailleurs, mais uniquement dans le monde de l'escalade. C'était une légende. La plupart des gens comme moi qui sont venus grimper au Pays de Galles ont lu les histoires de ces gars-là. C'était vraiment des précurseurs.
On va continuer l'interview à l'intérieur de la voiture parce que bon, il ne s'arrête pas trop de pleuvoir et on sera plus sûr de continuer à l'intérieur. J'ai entendu que vous parlez un petit peu français, vous avez dit quelques mots français.
Oui, je parle un petit peu français. Oui, j'ai vécu en France avec ma famille pendant 7 ans. J'étais guide dans les Alpes. C'était une belle période.
À Chamonix ?
À Chamonix, oui.
Chamonix, en France, c'est un peu la mecque de l'alpinisme. Le Cervin peut l'être, par exemple, en Suisse. Est-ce que ici, c'est la mecque de l'alpinisme et de l'escalade pour le Royaume-Uni ?
Oui, c'en est une. C'est une grande région d'escalade au Royaume-Uni, non seulement à cause de l'histoire, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de falaises. Les gens grimpent ici depuis si longtemps, il y a tellement de voies à aller faire. Donc oui, c'est l'une des principales régions d'escalade. Beaucoup de grimpeurs, y compris d'autres pays, viennent au nord du Pays de Galles. Ils vont aussi en Écosse, bien sûr, et dans des endroits comme Sheffield, dans le Lake District. Mais ouais, ici, c'est l'une des mecs du Royaume-Uni, c'est sûr.
Laissez-moi vous lire un extrait du livre qui m'a accompagné pendant tout ce reportage, « Nourrir la bête » d'Al Alvarez. Les grimpeurs, formant un groupe compétent et surmotivé, ils sont souvent doués dans tout ce qu'ils entreprennent. En conséquence, les travaux de menuiserie, de plomberie et de peinture sont certainement meilleurs et meilleurs marchés à Lambéris que partout ailleurs en Grande-Bretagne. À un détail près, cependant, l'escalade passe avant l'argent. En cas de beau temps, tous les chantiers sont donc reportés. Bon, je rappelle que ce livre a été écrit en 1988, mais... Eric, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Ce serait l'idée, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr que cela fonctionne toujours tout à fait comme ça. Je pense que c'est un peu plus difficile à faire de nos jours, même s'il doit encore y avoir certainement pas mal de personnes qui font juste le travail dont elles ont besoin et qui choisissent de grimper le reste du temps. Elles ne cherchent pas forcément à gagner beaucoup d'argent, juste de quoi continuer à faire ce qu'elles aiment. Je pense qu'il y a toujours eu des grimpeurs qui ont fait ça et qui continuent de le faire dans le coin. Yeah, I think what climbers have always done.
Même si c'est il y a parfois beaucoup de monde, même si c'est très touristique, vous êtes toujours quand même amoureux de la montagne, Tony?
Oui, j'ai peut-être une relation d'amour-haine avec la montagne. Mais au fond, c'est quand même pour ça que nous sommes ici. Notre travail est de nous mêler aux randonneurs et de les aider. Donc ça ne me dérange pas quand c'est vraiment bondé. Cela dit, j'apprécie aussi les sorties que nous faisons en semaine, en général le mercredi, quand c'est vraiment agréable et calme. J'adore aussi venir en hiver, hors saison, quand je ne travaille pas, mais juste pour me faire plaisir et avoir toute la montagne pour moi. Ça me permet de voir la montagne sous tous ses aspects.
Je vais vous lire le passage du livre de Al Alvarez, qui s'appelle « Nourrir la bête ». Vous allez me dire si vous vous reconnaissez toujours là-dedans. Tout à l'est de la ville, en face du majestueux Royal Victoria Hotel, la gare est le point de départ des petits trains qui conduisent K1, KA, les touristes au sommet du Snowdon, où les attendent un café lugubre et une vue fantastique.
Oui, c'est vrai. Ça résume parfaitement la situation par une belle journée. C'est exactement ça. Bon, ça a sans doute été écrit quand il y avait encore les vieux bâtiments en bois et qu'ils étaient assez lugubres. Mais les visiteurs étaient assez contents de pouvoir acheter quelque chose là-haut et de prendre un verre ou quelque chose à manger.
Dans le livre, l'auteur, Al Alvarez, dit aussi que finalement, il n'a pas une très bonne image de la région, que c'est assez triste, assez lugubre, encore une fois. Qu'est-ce que vous en pensez, Tony ?
C'est une ville, Lambris, qui vivait de l'ardoise, donc ça a toujours été très gris. Tout le paysage autour est gris. Et il y a d'autres villes du nord du Pays de Galles qu'on dit tristes aussi, pour la seule raison qu'elles sont construites en ardoise grise. Mais pour moi, c'est aussi ce qui fait leur attrait. Ça fait partie de leur histoire, et c'est ce qui les rend intéressantes.
À l'époque, il dit dans le livre que le taux de chômage est très élevé, même pour le Pays de Galles. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ça réussit un peu à reprendre du poil de la bête, finalement ?
Oui, la région va mieux aujourd'hui. Quand la carrière que nous avons devant nous a fermé en 1969, il y a eu un moment dans l'histoire de Lambéris où il y avait beaucoup de chômage. Et c'est pourquoi les élus de la commune ont essayé d'attirer de nouvelles entreprises. Mais n'oublions pas aujourd'hui que s'il y a bien une industrie qui est très importante au Pays de Galles, c'est l'industrie touristique. Une grande partie de la population travaille de près ou de loin dans le tourisme. Certes, ça reste de l'emploi saisonnier, mais c'est un secteur essentiel pour le nord du Pays de Galles.
Le snowdown, au lieu de l'alpinisme et des mythes britanniques à 1085 mètres d'altitude, c'était la grande histoire de Martin Delacou. Elle était réalisée par Rodolphe Beauchaud.
Infotrafic RTS.
Le trafic s'écoule pour l'heure sans encombre sur l'ensemble du réseau routier roman. Et pour savoir si un problème est signalé sur votre trajet, vous pouvez aussi utiliser le site rts.ch/trafic.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
La belle échappée rejoint le Galta, mais revient dans une semaine avec joie. Voici Forum.